Mais, ah, il est bien d'être ici ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est bon, notre Seigneur. La fête des pères. Wow. Alors, je vois bien que vous mettez les papas en honneur ici. Des fois, tu vas et c'est les moments. Et je suis content que les moments soient mis en honneur là. Mais je suis encore plus content que ce sont des papas. Je ne sais pas pourquoi ça, mais si tu te fasses, non, j'ai plaisant. Merci pour nos moments aussi. Mais je crois qu'il est important. Parce que des fois, on oublie la place du papa. Et pour certains d'entre nous, le mot papa, aïe, 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 c'est pas un beau mot, c'est un gros mot. Hein? J'ai connu une fille, et quand son grand-père est mort, à l'enterrement, elle dit, moi je suis content qu'il soit mort, parce que ce n'était pas un homme qui avait fait du bien autour de lui, mais un bon papa, oh là là, un bon papa. Juste avant que je prêche, à la fin, vous les papas, il ne faut pas sortir trop vite parce qu'on a un petit cadeau pour vous, si j'ai bien compris. J'espère qu'on peut le manger, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. pas de fleurs, des sœurs. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Mais... aussi, oui, l'autre chose. J'ai une petite méditation que j'envoie chaque semaine qui s'appelle Tâche de café. Est-ce qu'il y en a qui le reçoit? Oui, et plusieurs. Alors, si vous aimeriez bien avoir, normalement, c'est une petite anecdote avec une application spirituelle pour grandir dans le Seigneur. Et vous pouvez avoir, si vous faites deux choses, si vous voyez la sœur Lucille, elle est là dans le balcon, elle aime bien être là pour qu'elle dorme et je ne le vois pas. C'est pas vrai. Cette femme-là, je crois qu'elle dort jamais. Mais si vous aimeriez bien avoir la méditation par email, il faut une adresse email. À ce moment-là, vous donnez votre adresse à Lucille et le Seigneur vous l'aurez dans le courrier aussi. Merci bien pour votre gentillesse cette semaine. Moi, je me suis régalé dans la présence du Seigneur et aussi avec mes frères et mes sœurs. Vous êtes bien. J'aime bien cette église. Et ce qui est bien, c'est que je crois que ça fait déjà la quatrième fois que je passe par ici. Et chaque fois, il me semble qu'il y a une progression dans le Seigneur, dans l'église. Et il y a un tel esprit de joie et de communion fraternelle. Je crois que le Seigneur est en train de faire quelque chose parmi vous. Amen. Mais ici, c'est la parole que je crois que le Seigneur m'a donnée pour vous. Et quand j'ai entendu Sylvie qui dira des évangélisations, j'ai dit, merci Seigneur, parce que cette région a besoin du Seigneur Jésus. Et si ce n'est pas vous, si ce n'est pas cette église, si ce n'est pas nous, qui va le faire? Qui va le faire si ce n'est pas vous? Le psaume chapitre 103, verset 13. 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés et se souvient que nous sommes poussière. C'est une des premières fois, une des seules fois, je crois que peut-être 15 fois, dans tout l'Ancien Testament, on parle de Dieu comme Père. Dans le Nouveau Testament, c'est plein. C'était vraiment le mot que Jésus se servait de parler de Dieu et il appelait Père. Et il a dit que nous pouvons aussi appeler Dieu, celui qui a créé l'univers, le Père. Je dois dire que en me préparant pour ce message, j'ai dû réfléchir un peu parce que j'avais un petit papa que j'aimais beaucoup. Alors, il est mort depuis 25 ans maintenant. Mais papa, c'était, pour vous l'aurez remarqué dans la réunion, c'est vrai. parce qu'il serait juste là, mais il aurait déjà dit « Amen » 15 fois avant cette période, et très fort des fois. Mais papa, quand j'étais garçon, on voit la télévision, on voit les garçons qui se vantent, « Mon papa, il est plus fort que ton papa. Mon papa, il est plus beau que ton papa. Mon papa, il est ceci, cela. » Et j'avoue, du point de vue humain, peut-être j'étais un peu déçu parce que papa n'avait pas de grands muscles, il n'était pas grand, il était assez petit, il était un peu rondelé. Hein? C'était un peu petit campagnard qui a grandi dans une famille de 9 enfants, une pauvre famille qui a connu la grande dépression économique des années 30. Et puis papa, il a fait la guerre, la deuxième guerre. La famille, il y avait, comme je dis, 9 enfants. Papa était le quatrième. Il y avait un frère qui est mort dans la guerre de Corée. Et papa a perdu aussi un frère qui avait une fièvre. Lui, papa avait la même fièvre, mais il a survécu. Mais rien d'extraordinaire. Si vous voulez des héros, vous pouvez prendre John Wayne à la télévision. Je l'ai vu. John Wayne, c'était vraiment un héros. Mais vous savez, la différence entre John Wayne et mon petit papa campagnard, c'était que John Wayne, il tuait tous ses ennemis au cinéma. Il n'est pas parti en guerre. Et papa, il est passé par la boue en France, en Allemagne. Trois semaines avant la fin de la guerre, il montait la garde sur des prisonniers dans une espèce de camion. Et sur une montagne, ça s'est retourné. Et il a essayé de sauter pour ne pas être écrasé par le camion. Et je crois qu'il a frappé un arbre, je ne sais pas, il ne sait pas non plus. Il a eu une concussion très forte, il a eu la jambe déhanchée. Et pendant 6 semaines, ils n'ont pas remis ça en place. Alors ça fait que ça n'a jamais tout à fait guéri comme il fallait. Et toute sa vie, il boitait. Bon, John Wayne ne boitait pas, mais papa, pour moi, c'était vraiment un héros. Un homme qui a choisi d'habiter la campagne loin de son travail. Bon, il n'a pas fait de grandes études du tout. Je crois qu'il a fait 10 ans des études. Mais au lieu d'habiter la ville, parce qu'après la guerre, le gouvernement, ils essayaient de faire du travail pour les soldats qui revenaient. Et papa, il travaillait sur une base militaire comme mécanicien, parce qu'il a fait des études de mécanicien après la guerre. Mais là, il n'était pas près de son travail. Il habitait à peu près 90 kilomètres de son travail. Alors, il s'est levé chaque matin à 4h30 dans la semaine pour aller au travail pendant 27 ans. Wow, dans ce travail-là. Eh bien, il a choisi d'y habiter. Et je crois que la raison la plus grande, c'était ma grand-mère, mon grand-père. Ils habitaient dans ce petit village où étaient papa et maman. Et je crois que papa a choisi cela parce que des 9, c'était lui le seul qui restait près de la maison. Il s'occupait de ses parents qui étaient âgés. Grand-père ne savait pas conduire la voiture. Alors, c'était maman et papa qui a fait ça pour eux. Mais papa, il a payé un prix aussi, 25 ans, 27 ans d'aller-retour, 90 ans et puis 90 ans de retour. C'était papa. Et ce qui était bizarre, c'est que papa n'a presque jamais loupé un jour de travail. C'était très, très, très rare. Il était là. Enfin, un des diacres de son église, quand papa est mort lors de son enterrement, ce jour-là, il a dit, « David, tu sais quoi? Tu peux chercher la définition dans le dictionnaire. Tu peux chercher la définition du mot fidèle et tu vas trouver la photo de ton papa juste à côté de cette définition, fidèle. Parce que papa, il était fidèle à son travail, il était fidèle à notre famille. Parce que, et je dis ça avec beaucoup de respect, mais maman n'était pas facile. Oh là là, elle avait des problèmes de nerfs, elle avait, moi je dirais à la limite des problèmes psychologiques. Et beaucoup, beaucoup, aujourd'hui, auraient dit, non, 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 c'est trop, moi, je ne supporte pas ça, je travaille dur, et je supporte ça, non, 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 je m'en vais. Mais nous étions trois, mon frère, ma sœur et moi. Et qu'est-ce qu'on aurait fait si papa nous avait quittés? Qu'est-ce que maman aurait fait? Oh là là! Si papa nous aurait quittés, fidèle, 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 fidèle. Sa vie, sa deuxième vie, commençait à 39 ans. Parce que, comme je dis, il grandit dans la campagne. Je suppose qu'il n'est jamais allé, ou presque jamais allé, à l'église jusqu'à à peu près 38, 39 ans. Mais à cette époque-là, il commençait d'aller à l'église parce que la maman de ma maman était une femme qui aimait le Seigneur. Elle aimait le Seigneur. Il y a des gens qui aiment le Seigneur. Elle aimait le Seigneur. Sérieux, et là, des fois, c'était un peu trop, mais c'était merveilleux. Parce que c'était à cause d'elle que je suis au Seigneur. Et puis, papa est venu, et maman à la fin, et je crois que presque toute sa famille est venue au Seigneur. Mais ça a pris des années. Mais papa, il commençait d'aller à l'église quand il avait 39 ans, je crois. L'église était 30 kilomètres plus loin. Je vous ai dit, on habitait la campagne, et c'était la campagne, hein, c'est vraiment. Et les routes n'étaient pas toujours bien, mais papa, il commence d'aller à l'église. Et au début, est-ce que vous avez vu à la télé ces vieux trains à vapeur comme qui commençaient dans tchou, 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 tchou. C'était papa. Au début, dans sa relation avec le Seigneur, il commençait lentement, lentement, lentement. Mais à la fin, quand il avait mon âge, il courait comme un avion de chasse presque pour le Seigneur Jésus-Christ. Il aimait le Seigneur Jésus-Christ. Aimait le Seigneur Jésus-Christ, fidèle à son Église. Il passait une période, je crois que c'était 10 ans une fois. Il n'a pas loupé une réunion de dimanche matin une seule fois durant des années, des années, des années. Et même le dimanche soir et le mercredi, c'était papa. Mais plus que ça, il n'a pas seulement pris, comme tu dis, parce qu'à la réunion, des fois, je suppose que les pasteurs, des fois, étaient un peu embêtés parce que papa disait « Amen! Amen! » Amen. Et à un moment donné, le pasteur, une fois, il a dit quelque chose un peu négatif sur lui-même, et papa a dit « Amen !» Et là, oh, aïe, aïe. Il chantait fort et faux. Fort et faux. La Bible dit « Fais un bruit joyeux », et c'était joyeux, mais c'était tout. Hein. Et là, mais il était là, fidèle, fidèle, fidèle. Puis, les dernières 4 années de sa vie, il allait dans une maison de retraite tous les dimanches matin. Là, pour les gens qui souvent n'avaient pas de pasteur, c'était papa qui était là pour enseigner avant que le culte commence chez nous dans l'église. Papa allait dans la maison de retraite et il passait une heure. Normalement, il y avait une sœur de l'église qui allait jouer piano et chanter les hymnes. Heureusement, ce n'était pas papa pour les diriger dans les chants parce que... Aïe, aïe, aïe. Mais là, des années, et il y avait qui n'avait pas de pasteur. Alors, c'était papa qui était l'officiant pour l'enterrement là, parce qu'il avait été comme un papa, comme un père à beaucoup de gens qui, pour lui, c'était la dernière station avant la mort, c'est papa. Je remercie le Seigneur pour l'exemple d'un papa. Et si on avait le temps, j'imagine que beaucoup d'entre vous, vous pouvez dire « mon papa, mon papa, mon papa ». Est-ce que c'était tous positif? Non. Des fois, quand on est enfant, les parents disent quelque chose et pour eux, ce n'est pas grand-chose, mais pour vous, ça reste dans l'esprit. Oui, ça m'est arrivé aussi. Papa, il ne donne pas les fessées. Une fois, il m'a tapé sur la tête comme ça. Je crois que j'ai tué quelqu'un, non, je ne sais pas, parce qu'autrement, papa ne m'aurait pas touché. Mais par contre, maman m'a donné assez de fessées pour papa, maman, grand-mère, grand-père, mes oncles, mais j'en ai eu, hein, mais pas de papa, pas de papa. Mais un bon papa, et je crois qu'on a plein de bons papas. Et vous qui avez, vous avez des enfants maintenant, laissez-moi vous encourager. Vous avez un pouvoir merveilleux. Des fois, on a la tendance de vouloir laisser les enfants avec la maman et nous, nous faisons ce que nous voulons. Mais vous savez, des gens beaucoup plus intelligents que moi, ils ont fait des études et ils ont trouvé que souvent le papa a autant d'impact ou bien plus d'impact sur les enfants que la maman. Et on dit, je suis pas contre maman, gloire à Dieu pour les mamans, mais papa ne croit pas que vous n'avez pas d'impact pour les enfants. On dit que souvent, même pour les filles, et le développement de la fille, psychologiquement, spirituellement et tout, c'est souvent le papa qui a même encore plus d'influence sur la fille que... Si vous êtes garçon, je ne vois pas des garçons qui cherchent des filles, mais si vous connaissez des garçons qui cherchent des filles, vous pouvez leur donner un conseil. Cherchez une fille qui a une bonne relation avec son papa. Hein? Parce que cette fille-là, tu la veux. Mais attention, avant de la voir, vous, il faut passer papa aussi. Ça, ce n'est pas toujours évident. Mais parce qu'un bon papa, il aime sa fille. J'ai dit à ma fille une fois, si tu trouves un garçon qui t'aime autant que ton papa t'aime, il faut le marier. Parce que là, ton papa, il t'aime beaucoup. Et c'est vrai. Mes enfants, mes garçons, ma fille, le cadeau que le Seigneur m'a donné à moi et ma femme, plus que tous les autres cadeaux du monde que j'apprécie, que j'aime le plus, ce sont mes enfants et mes petits-enfants. Hein? On dit, ouais, les petits-enfants, ils sont merveilleux. Hein? C'est là, encore mieux que les enfants. On dit que quand tu vois tes petits-enfants, vous êtes tellement content que vous n'avez pas tué tes propres enfants. Parce que ça te donne des petits-enfants. C'est merveilleux. Hein? Mais quel cadeau du Seigneur. Mais traite-le comme un trésor. Traite-le comme un trésor et prenez la responsabilité. Enseigne les enfants de marcher dans le chemin du Seigneur. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une mince chose. Avec nos enfants, on avait un moment chaque jour de lire la Bible et prier, surtout quand toute la famille était ensemble. Et pour les enfants, ce n'était pas tout parce qu'ils voulaient partir tout de suite pour regarder la télé ou quelque chose d'autre. On les a laissés faire. Mais d'abord, la chose la plus importante, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et je vous dis, tous les trois, ils aiment le Seigneur. L'un, c'est un directeur de sport dans une école chrétienne. L'autre, c'est un missionnaire. L'autre, c'est une infirmière, une responsable dans un hôpital maintenant. Mais ce sont des gens qui ont emmené leurs enfants au Seigneur Jésus-Christ aussi. Mes amis, enseignez-les de marcher dans le chemin du Seigneur. Soutiennez-les, pourvoyez pour les, travaillez. Amen. Il y en a qui cherchent ce travail parfait. Et il a 58 ans. Il va de travail, de travail, de travail. Elle aussi. Écoute, vous savez, moi, j'avais un diplôme d'université en sciences politiques, mais j'avais commencé dans le ministère et j'avais décidé de mettre ça comme priorité. Alors, je suis allé dans une ville, j'ai cherché un travail, j'étais associé d'un pasteur, mais j'ai cherché un travail et je trouvais rien. Alors, si, j'ai trouvé. C'était couper les buissons à côté de la route, de la comté là où j'habitais, remplissez les trous dans la route, conduisez les camions qui apportaient la terre et tout ça. C'était un travail dur. Mais ma femme et moi, on avait des très mauvaises habitudes. On aimait manger. Et là, vous savez, quand vous travaillez, même dans un travail minable, on vous donne un salaire. Alors, travaillez pour votre famille. Ne faites pas que le travail soit votre Dieu. Parce que nous, les hommes, oh là, Je sais bien, on est un peu mesuré par les autres, par ce qu'on fait, notre emploi. Quelle est normalement la première chose qu'on vous demande, monsieur, quand vous rencontrez une personne pour la première fois? D'où venez-vous? Et puis, qu'est-ce qu'on vous demande? Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Hein? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et nous, les hommes, nous voulons dire, je suis président de la République. Bon, il y en a déjà un. Au Canada, vous n'avez pas un président de la République, n'est-ce pas? Un premier ministre, mais de toute façon. Mais travaillez, soutenez votre famille. Ah, corrige vos enfants. Est-ce que vous savez, il y a là des humanistes, ils croient que les enfants sont nés bons. Mais le problème, j'ai entendu un pasteur une fois qu'il a dit, qui parlait avec ce couple assez intelligent, qui venait à l'église, il se croyait intelligent. Il dit, nous élevons nos enfants un peu à part, parce que là, nous savons qu'on est né, on est bon. Et là, quand nos enfants seront avec les autres, ça va les gâter. Alors, surtout ces premières années, on va les élever tout seul. Alors, ils avaient un garçon ou un enfant de 4 ans et un autre à peu près le même âge. Ils parlent et tout d'un coup, un des enfants, il courait vers maman, un de ses enfants parfaits qui n'avait pas été gâté par d'autres enfants. L'un courait vers l'autre, je crois qu'il saignait du nez parce que l'autre enfant parfait l'avait mordu. Mes amis, il faut corriger les enfants. Ah oui, avec amour. Il ne faut pas crier 10 fois. Je te dis, ne le fais pas. Un jour, dans un autre pays, j'étais avec une personne et sa famille à table, et son garçon là a fait une bêtise à la table. Il dit, arrête ça. Et le garçon, il continuait. Il dit, arrête ça. Et puis il dit à sa femme, tu vois ce qu'il a fait? Je lui ai dit d'arrêter et il ne l'a pas fait. Il dit, oh là là. Ma maman et mon papa, ils auraient eu une solution pour cela. Hein? Si tu dis, pas méchamment, mais que les enfants t'obéissent. Parce que si les enfants ne t'obéissent pas, ils ne vont pas obéir à la loi, aux policiers, aux autorités dans la vie, et ils n'ont pas obéi à Dieu non plus. Quand ils apprennent à obéir, c'est tellement... Et pas, excusez-moi, mais vous avez vos propres idées. J'ai des personnes dans ma famille qui ne croient pas qu'il faut donner des fessées. Ils ont élevé des enfants merveilleux. Parce que là, ils ont une autorité. Ils font en sorte que les enfants soient punis, peut-être pas de cette façon. Je ne sais pas quelle est votre façon de punir les enfants. Je ne suis pas contre le fessé et ça. Mais je dis que tes enfants t'obéissent. Amen. David, tu es vieux, oui. C'est pour cela que j'ai tous ces cheveux blancs. C'est parce que les enfants, il faut... Non, non, c'est pas vrai. Mais corrige nos enfants. Corrige nos enfants. Et réalisez quelque chose aussi. Un enfant de 10 ans n'est pas un enfant de 2 ans. Et un enfant de 10 ans n'est pas un enfant de 18 ans non plus. Et ce n'est surtout pas un enfant de 30 ans. Il y a des mamans et des papas qui essaient toujours de diriger la famille, que les enfants, ils ont leurs propres enfants. Tous. Non, 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 non. Mon rôle est différent maintenant. Je suis pas ce que... Et j'ai toujours apprécié papa et maman. Peut-être qu'ils n'étaient pas d'accord si on parlait, ils donnaient son avis, mais ils réalisaient qu'il avait élevé un homme qui était capable de prendre les décisions pour sa propre famille. Amen. Et il vient un moment dans la vie, les enfants sont adultes et il faut les respecter comme adultes. Oh là là, prêche-le, David. Oui, oui, je suis d'accord, Seigneur, mais je suis le seul parce que là, il me regarde. Non, mais c'est vrai. Il faut respecter tes enfants. ne faut pas toujours dire, ouais, tu n'as pas bien fait, tu n'as pas... Bon, tu peux dire à ton mari ou à ta femme, alors les enfants, mais j'ai dit à ma femme, tu sais quoi, avec les enfants, notre belle-fille et notre fils, ça va. Il y a des moments où on ferme la bouche parce qu'on veut voir nos petits-enfants. Et il y a des familles qui sont divisées parce que les parents ne savaient pas se taire. Ouh là là, c'est même pas dans mes notes. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est vrai, il faut respecter tes enfants. Ça ne veut pas dire que tu es toujours d'accord avec tes enfants parce qu'ils vont faire des bêtises. Heureusement, toi, tu n'as jamais fait de bêtises. Et ton papa et ta maman croyaient que tu faisais toujours bien toi. Mais il faut les respecter. Moi, j'étais étonné des fois. Je me souviens une fois qu'on j'avais 17 ans et je voulais aller voir un match de football dans une autre ville, dans Little Rock. Et c'était un moment un peu mouvementé, et c'était quoi, 200 kilomètres de la maison, j'avais 17 ans, je voulais aller avec deux de mes amis, et j'ai dit, papa, je peux prendre la voiture pour aller, pour voir ce match-là. Et écoute, maintenant, si moi j'avais été papa, et j'avais un garçon de 17 ans, j'ai dit, oh non, tu rêves, tu blagues ou quoi? Mais papa, il m'a dit, je préfère que tu ne le fais pas, mais si tu veux, tu peux y aller. Alors, pour un garçon de 17 ans, ça veut dire oui. Hein? Il avait confiance en moi. Il avait confiance en moi. Et peut-être que ce n'était pas très bien, mais ça marchait. On n'a pas fait de bêtises. Le Seigneur a pouvoir de nous. Les parents, il faut voir quelque chose dans tes enfants. Il faut voir quelque chose dans tes enfants. Papa était mécanicien, un bon mécanicien. Mon petit frère est devenu mécanicien après, et il est un bon mécanicien. Il a fait sa vie comme ça très, très, très bien. Moi, mécanicien, je suis nul, nul, nul. Pas seulement nul, mais trois fois nul. Hein. Et ça ne m'intéressait pas trop. Mais ce qu'il y a, papa a vu autre chose et il m'a encouragé d'aller en fac là pour étudier parce qu'il voyait que je n'étais pas doué d'un côté, bien que lui, c'était tout ce qu'il avait connu presque toute sa vie, mais il voulait que moi, j'aille à l'université pour me former, pour me préparer. Et là, disons, il m'encourageait, même, bon, on n'a pas le temps pour entrer dans les détails, mais il voyait qui j'étais et ce que j'étais, et il n'essayait pas de faire de moi ce que je n'étais pas. Et des fois, on a je connais une personne maintenant, le papa, il a vraiment une petite entreprise lui-même, il gagne bien sa vie, mais son fils, il voulait pas suivre là, il aime beaucoup ses parents, mais il voulait pas suivre. Lui, il voulait être un shérif, un policier. Et les parents, peut-être ils n'étaient pas trop contents, mais ils l'ont laissé faire parce que c'était lui, c'était sa vie. Et nous devons faire attention. Voyons ce qui sont nos enfants, c'est vrai. Mais en plus, il ne faut pas non plus essayer de les mettre dans la petite moule que nous avons préparée pour eux. Alléluia. Soyez là. Soyez là pour tes enfants. J'avais des hobbies avant le mariage et surtout avant les enfants que je faisais, que pour une période, je les laissais à côté parce que je jouais beaucoup, mais avec mes enfants. Oh là là, on a joué. Parce que je m'étais souvenu de papa que quand j'étais jeune, il m'a pris et il aimait bien faire la chasse au gibier, le petit gibier. Et là, j'ai marché des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres derrière papa dans la forêt. Et là, après, j'étais fatigué comme tout avec mes petites jambes. Mais ces petites jambes, lui qui avait la hanche blessée, il pouvait quand même marcher des kilomètres, des kilomètres. Mais maintenant, quand je me souviens de ces jours, une des choses les plus précieuses pour moi, c'était ce temps que j'avais avec papa. Il ne disait pas grand-chose. Papa ne parlait pas trop. Mais on était avec lui. Et, oula, quand j'avais 12 ans, on avait une équipe de baseball pour la première fois dans le coin. Alors, on devait aller en ville, une grande ville de 700 personnes. Là, on avait une équipe de Little League. Et je jouais dans l'équipe. Et papa, il était tout enthousiasmé. Et là, il venait au match, il criait avec les arbitres. Et là, et des fois, j'étais un peu gêné. Mon frère m'a dit, plus tard, parce qu'il a presque 6 ans de moins que moi, il dit, oui, papa, il venait, mes matchs aussi. Un jour, l'arbitre s'est tourné pour dire, si tu ne te tais pas, ça, c'était papa. Ça, c'était avant qu'il dise amen au pasteur. Il disait son avis aux arbitres, comme ça. Mais, oula, et j'avoue que son fils, ses deux, mon frère aussi, ils ont un peu l'habitude d'aider les arbitres. Mais vous savez, quand vous avez un enfant qui joue, c'est plus grand que vous. C'est le final de Coupe du Monde. Quand vous avez un enfant de 12 ans qui joue dans ce petit jeu de basket, c'est important. Et les arbitres sont toujours pour l'autre équipe. Et je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça, mais ils sont comme ça, les arbitres. Et, pardon, les arbitres. Mais je remarque aussi, j'ai un enfant un peu comme ça. Deux enfants. Ma fille, elle est le pire. Oh là. Mais elle est pire que mon papa, si c'est possible. Mais mon fils aîné, c'est lui qui fait attention parce que c'est le directeur de sport dans son école. Alors, il ne permet pas que les gens qui viennent au match, il a un petit discours, il fait, on est là pour les enfants, on est là pour s'amuser, c'est bien. Alors, si vous criez avec vos enfants, vous traitez les enfants de noms ou les arbitres, on va vous faire sortir. Et ma belle-fille m'a dit une fois, mon fils, ils étaient un match de football, je crois, pour les petites filles. Et notre petite fille ne jouait même pas. Je ne sais pas pourquoi ils étaient là. Mais il y avait une dame là et sa fille jouait. Et elle était là juste à côté du terrain et criait sur son enfant, sur sa fille. Elle insultait sa fille parce qu'elle ne jouait pas comme il fallait. Elle continuait et continuait. Et ma belle-fille, elle avait honte un peu, mais elle a dit, Steve, mon fils, il ne pouvait plus. Il s'est levé de sa place dans les gardiens. Il ne connaissait même pas la femme. Mais il est allé avec la femme et il dit, écoute, madame, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas crier avec votre fille. Et lui a fait un peu la leçon devant tout le monde. Je crois que tout le monde dans les gardiens, ils étaient contents. Hein. Et après, Steve, il avait un peu honte, mais comme je dis, c'était plus fort que lui. Et il est allé vers la femme et son mari, après, il s'est excusé. Et le mari, il dit, bon, je crois que le mari voulait le dire, mais il n'avait pas le courage. Parce que lui, Steve ne vit pas avec la femme. Mais la présence, c'est tellement important. Alors, Sophonie 3 et 17, c'est un de mes versets préférés. Il dit, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Un héros. J'ai dit, papa, c'est un héros. Le Seigneur, c'est aussi un héros. Il fera de toi sa plus grande joie. Un bon papa, hein? Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Il gardera le silence dans son amour. Il y a toutes sortes de cette phrase-là dans l'hébreu. C'est difficile de traduire. Alors, l'un dit que ça dit ceci, l'un dit que ça. Moi, je crois que c'est un peu comme ça. Je me souviens quand nous avons appris le français au début. Nous étions dans les Alpes de France, et à Albertville, pour apprendre le français là. Et on avait un appartement sur le côté d'une montagne. C'était vraiment beau, difficile comme tout, mais c'était beau le cadre. Et je me souviens un soir d'entrer dans la pièce où mes enfants dormaient. Je crois que ma fille, elle a dû avoir 6, peut-être 7 ans à l'époque. Et là, c'est la fenêtre ouverte et tu vois à l'extérieur la ligne des montagnes et puis la lune qui brillait là. Et je voyais le visage de ma fille là qui était en train de dormir. Et je vous dis, j'ai presque explosé d'amour. J'ai dit, rien, le Seigneur garde le silence. Et je me demande si des fois, le Seigneur ne nous regarde pas quand nous sommes en train de ronfler. Il nous regarde, ah, là, là, c'est mon fils, c'est ma fille, je l'aime tellement. Parce que vous savez, ce qui m'étonne, ce qui m'est incroyable, là, il dit en Jean chapitre 17 et 23, la dernière partie, que Jésus, il prie le Père, et il dit, en parlant de nous, il dit, tu les aimes, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ça, je comprends. Le Père, Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, Jésus, son Fils unique, qui est le plus beau, le plus merveilleux du ciel, de l'univers, le Père qui porte un amour incroyable pour son Fils, il m'aime et il t'aime quand il aime son Fils. Moi, je n'aurais jamais dit ça. Je n'aurais jamais osé dire une telle chose. Mais Dieu nous a envoyé ce mot ici, comme tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Dieu t'aime quand il t'aime son Fils. Et mon ami, c'est ça qui est tellement vrai. Vous croyez que Dieu, comment il peut-il m'aimer? Et moi aussi, je me suis posé la question pendant... Je savais intellectuellement qu'il m'aimait, mais pour vraiment ressentir son amour, je crois que je vous ai dit par le passé, mais ce verset Sophonie 3 et 17, c'est devenu une révélation pour moi. Une fois dans une classe à l'école biblique, c'était à Bruxelles, et là, j'enseignais, et puis on est tombé sur ce verset-là. « Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Et là, il y avait une fille de Paris là, et j'ai dit, « Céline, aide-moi avec mon français. Comment faire en français un transport d'allégresse ?» Et elle a fait « Wouh !» Certains d'entre vous, vous vous êtes réveillés, hein? C'est bien. Et c'était comme je voyais Dieu debout devant son trône, parce que, écoute, et traduire ça, tu peux le traduire, il chante pour nous, il danse, il fait de bruit pour nous, il est là, un transport d'allégresse. Et c'était comme si je voyais Dieu devant son trône en train de se réjouir à cause de moi. C'est pas possible. Je me connais trop bien. Je suis rien, je suis nul. Mais Dieu m'aime. Comme ça. Et mon ami, aujourd'hui, j'ai une très, très, très bonne nouvelle pour toi. Il t'aime, toi aussi, juste comme ça. Nous croyons que Dieu est sur son trône en train de regarder et dit, « Oh non, pas encore. » Non, il nous aime. Comme je voyais ma fille cette nuit-là, et j'étais tellement rempli d'amour. Vous imaginez un être comme Dieu qui est plus grand que son univers. Et la Bible dit qu'il est amour. Imaginez l'amour qu'il porte pour toi, pour moi. C'est un papa incroyable. Un papa qui vous aime de tout son cœur. Et ce matin, j'aimerais bien, si vous êtes ici, peut-être vous n'êtes pas en train de suivre le Seigneur. Je ne dis pas, ouais, je crois que Dieu existe. Ça, c'est rien. Le diable croit que Dieu existe. Qu'est-ce que tu fais? Quoi que ça va faire? Il faut aller. Il a dit, celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il donne une récompense à ceux qui le cherchent. Amen. Et cette récompense, c'est le pardon de péché. Cette récompense, c'est la vie éternelle. Cette récompense, c'est un nouveau cœur pardonné, changé par le Saint-Esprit. Cette récompense, c'est une famille. Cette récompense, c'est vraiment une vie avec cette récompense, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui t'aime, il est pour toi. Et mes amis, si vous ne vous êtes pas arrivé de suivre le Seigneur, je vous encourage de tout mon cœur, ce matin, avant de quitter ces lieux, approchez-vous de ce Père qui aime tellement, qui devient votre Père aussi. Dites-lui, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je sais que j'étais pécheur, je sais que je suis pécheur, je sais que j'étais loin de toi, mais maintenant je viens. Et la Bible dit que Dieu, qui est riche en miséricorde, pour le grand amour dont il nous a aimés, il va vous sauver. Par la grâce, nous sommes sauvés, par la foi. Et ça ne vient pas de nous-mêmes. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Dieu est là ce matin. Ce Père céleste veut devenir votre Père céleste. Et puis, une toute dernière parole. J'aimerais bien vous encourager, des papas. Parce que vous savez, il y en a qui, physiquement, n'ont jamais été papa, mais ils étaient beaucoup de fois papa. Ce n'est pas le fait de générer un enfant qui fait d'un homme papa, à mon avis. Oui, physiquement, peut-être légalement, mais un violeur peut être papa, selon cette définition-là. Et un violeur, ce n'est pas un papa, c'est un criminel. Mais un papa, c'est quelqu'un qui prend soin d'un autre. Un papa, c'est quelqu'un qui est là pour un autre. Papa, c'est quelqu'un qui est là. Certains d'entre vous, vous marchez longtemps avec le Seigneur. Et il y a des jeunes que vous devez les prendre pour parler, avoir. C'est pas que vous donnez des leçons de la Bible, oui, mais en parlant avec vous, là, les principes, ça va sortir tout seul, parce que là, vous êtes un père. Soyez des pères pour des autres hommes dans l'Église. Amen. Quelqu'un a bien dit, et je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas seulement le fait de s'ajouter au Seigneur, de venir pour être sauvé, ça c'est merveilleux, mais ça c'est le commencement. Et qu'est-ce qu'on fera les moments si on donne naissance à un enfant et on l'a laissé là dans la salle de livrer, de je ne sais pas comment on appelle ça, mais on l'a laissé là dans la salle tout seul. Il va mourir l'enfant. Et quand un enfant vient au Seigneur, quand un homme, une femme, quand il vient au Seigneur, il a besoin d'un autre, pas pour dire, oui, tu dois faire ça, non, mais pour devenir papa et maman dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions juste un moment. Et puis, après, je vais vous poser une question. Papa céleste, je t'aime. Ah, Seigneur, je n'ai jamais compris pourquoi tu m'as aimé. Mais je suis tellement reconnaissant. Tellement reconnaissant. Je te remercie pour le papa que tu m'as donné ici sur terre. Je suis reconnaissant pour les frères et les sœurs que j'ai dans la famille de Dieu. Et plus que toute autre chose, je suis reconnaissant pour ton fils, mon frère aîné, qui est mort pour moi, pour mes péchés, qui est ressuscité, qui est à la droite maintenant du Père. Tu es là. Seigneur, merci. Je prie, Seigneur, ce matin pour ceux qui ne te connaissent pas, ou bien ceux qui te connaissent, mais ils n'avancent pas, ils sont là où ils étaient il y a 5 ou 10 ans. Seigneur, ce matin, viens par ton amour, viens par ton esprit, allume une flamme dans notre cœur, dans notre esprit, comme tu as fait pour mon papa quand il avait à peu près 40 ans. Seigneur, il commençait vraiment de vivre sa foi. Seigneur, ce matin, que chacun de nous, si nous sommes arrêtés en chemin, que nous te demandons pardon. Et Seigneur, nous recommençons de vivre cette vie, mais aussi que nous devenons des pères et des mères pour les autres. Restons là, prier un moment, juste avant que nous ayons les papas qui viennent ben, vous donner un cadeau, juste avant ça, les têtes baissées, les yeux fermés. Tu dis, David, je suis là, mais je ne suis pas en train de suivre le Seigneur. Je ne suis pas en train de servir le Seigneur. S'il te plaît, prie pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Levez la main tout au long. Maintenant, je vais prier pour vous. Je ne vais pas vous... Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Ah là là. Je crois que les hommes sont sérieux ce matin. Dieu est en train de faire quelque chose parmi les hommes dans le monde. Amen. Je me réjouis. Et les femmes. Et les femmes. Lèvons-nous tous ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, aide-nous. Ceux qui commencent une relation avec toi ce matin, ils demandent pardon. Ils disent, Seigneur, me voici, prends ma vie. Dès maintenant, je suis à toi. Et Seigneur, ceux qui te suivent déjà, Seigneur, qu'ils prennent la décision qu'aujourd'hui va être un jour difficile, qu'ils ne vont pas revenir pour seulement vivre comme avant, mais maintenant, ils vont laisser ton esprit prendre la première place, que Jésus soit le centre, Seigneur, et dès maintenant, ils vivent pour toi, ils vivent pour aider les autres, grandir en toi, ils deviennent des pères et des mères spirituelles pour les autres. Agis puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen.